Chapitre 30. Quoi que vous traversiez dans votre vie, quelles que soient les épreuves que vous endurez, n'oubliez jamais qu'il existe forcément quelque part un destin pire que le vôtre. Et ce matin, la personne classée numéro 1 au top karma foireux est assise à côté de moi dans la voiture, que je conduis comme mes neveux dans leur jeu vidéo. Émilie tient des propos incohérents en ayant parfois des gestes brusques et désordonnés, telle une possédée. Parfois, elle regarde droit devant elle comme si elle avait vu un ovni et l'instant d'après, sa tête retombe comme si elle faisait une micro-sieste. Je n'ai jamais vu personne réagir ainsi, à part une fois, une fille dans un film d'horreur. C'était l'histoire d'une bande de jeunes à grosse poitrine et à beaux abdos qui campaient dans la forêt. Et la fille en question, en mini-short et débardeur trop petit, avait creusé un trou pour préparer un feu. Pas de bol, en deux coups de pelle, elle avait mis au jour une tombe avec la mort qui attendait au fond depuis au moins 3 siècles. Comme si on pouvait enterrer la mort. Après, la fille en short n'avait fait que des trucs bizarres qui agitaient son débardeur. Émilie fait exactement pareil. Elle a même émis un long bruit qui ressemblait à un râle de bison. J'ai peur. D'un autre côté, si sa tête se met à tourner et qu'elle vomit partout, je m'en fiche, c'est sa voiture. Je pourrais toujours me protéger avec le parapluie qu'elle garde dans sa portière. Tout à l'heure, elle va jouer du piano comme Chopin alors qu'elle n'a jamais approché un clavier. Elle va finir avec Valérie, aspergée d'eau bénite, enfermée dans une pièce dont la porte aura été soudée et sur laquelle un infirmier pragmatique aura accroché un panneau « Danger, sorcière, ne pas ouvrir sauf pour les brûler ». Émilie dit qu'elle ne veut pas mourir. Émilie dit qu'elle plaidera le crime passionnel et que ce n'est pas de sa faute si elle est tombée amoureuse d'un crapaud libidineux. Elle promet qu'avec son plan d'épargne logement, elle peut lui racheter une tête qui sera de toute façon moins moche que celle d'avant. C'est horrible, mais quand elle a dit ça, j'ai étouffé un fou rire. On est arrivé devant l'adresse de son professeur d'art dramatique. Je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que je laisse Émilie dans la voiture, sans aucune garantie qu'elle se tiendra tranquille? Ou est-ce que je la traîne avec moi sur le lieu du crime, quitte à devoir gérer la crise d'hystérie devant le cadavre? Choix cornélien. Ou elle reste dans le véhicule et elle risque de manger les sièges ou de mordre un passant si elle s'enfuit par la vitre que je vais laisser entr'ouverte pour ne pas qu'elle étouffe. Ou elle monte avec moi et j'ai droit à la grande scène de Hamlet qui saisit le crâne du mort et déclame « Prendre perpète ou ne pas prendre perpète, telle est la question ». Ne me voyant pas l'attacher comme une pauvre bête abandonnée, je prends le risque de l'emmener avec moi. Elle a beaucoup de mal à se souvenir de l'étage et avec ses lunettes de soleil, elle manque de s'étaler 3 fois en montant l'escalier. Elle me désigne soudain la porte d'une main aussi tremblante que sa voix, comme si c'était l'entrée des enfers. J'essaie de la rassurer. Regarde, c'est bon signe, il n'y a pas de scellé. Soit la police n'a pas trouvé le corps, soit les flics sont encore à l'intérieur. Non, ne sonne pas tout de suite, je ne suis pas encore prête. Elle fait 2 tours sur elle-même en tirant sur son manteau. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais on ne va pas y jouer toute la matinée. Je sonne. Pas de réaction. J'insiste en frappant. Je suis bien consciente que si c'est la police qui ouvre, ma visite aura simplement servi à livrer ma seule véritable amie à ses geôliers. J'entends des pas. On ouvre. Mon Dieu, elle l'a bien tué et c'est son spectre qui se tient devant moi. Un petit bonhomme, d'une 60aine d'années, aussi haut que large, avec un épais bandage autour de la tête. J'ignore pourquoi, mais à sa vue, un souvenir d'enfance me revient brutalement. Je n'y avais pas pensé depuis au moins 1 décennie. Caro et moi étions à une fête foraine dans un train fantôme, et tout à coup, un monstre a surgi devant notre wagonnet. Il avait une hache plantée dans sa tête couverte de bandelettes et tendait les bras pour nous attraper. J'ai eu tellement peur que par réflexe je lui ai donné un grand coup de poing et son cri est devenu très aigu. Si ça se trouve, le pauvre homme dégoûté a ensuite quitté sa famille, ses squelettes, ses wagonnets et ses grosses araignées en plastique pour refaire sa vie, et le hasard le replace sur ma route aujourd'hui. Le prof de théâtre a vraiment une allure bizarre. Il sourit. En général, lorsqu'un spécimen de notre espèce sourit, cela facilite le contact et l'envie de communiquer. Mais dans ce cas précis, l'effet est différent. Comment vous dire ? 2 choses m'effraient. La tronche de ce type, et l'idée qu'Émilie ait pu seulement envisager d'avoir un quelconque rapport physique avec lui. Faut-il qu'elle soit vraiment perdue? À leur mariage, j'aurais forcément été son témoin. Je crois que j'aurais exigé d'être floutée sur toutes les photos pour ne pas avoir à assumer. Good morning, ladies! Quel accent pathétique! Quelle attitude! En comparaison, Hugues avait presque de l'allure. Émilie est prostrée à l'angle du palier. J'essaie de garder une contenance. Bonjour, monsieur. On passait dans le quartier et on voulait vérifier que vous alliez bien. Il m'évalue de la tête aux pieds comme un paysan devant une vache à la foire aux bestiaux, puis s'adresse directement à Émilie avec un sourire de psychopathe.
Tu as du caractère. J'aime ça.
Petite coquine, tu es revenue avec une amie aussi ravissante que toi. On va bien s'amuser.
Entrez, j'ai du champagne au frais.
Émilie enfouit sa tête dans ses mains et commence à gémir comme un kangourou dont l'accouchement se passe mal. J'essaie de conserver le contrôle de la situation. Non merci, monsieur, ne sortez rien. Vous semblez en pleine forme, on va vous laisser.
Mais vous n'y pensez pas.
Il m'agrippe la main, un frisson de dégoût dévale ma colonne vertébrale.
Vous avez la peau douce.
J'ai envie de lui dire qu'il devrait se méfier. J'ai déjà tapé un clodo. Mais je dois contrôler mes pulsions de violence. Si Émilie l'embrasse, il se transformera peut-être en prince charmant. J'essaie de me dégager, mais il resserre son emprise. J'aperçois derrière lui quelques-unes des œuvres dont Émilie m'a parlé. C'est vraiment de l'art dramatique, mais au premier sens du terme. Qui peut trouver cela joli sans avoir subi un lavage de cerveau? On ne doit pas être le bon public. En attendant, il faut que je réussisse à me libérer.
S'il vous plaît, monsieur, soyez raisonnable.
La vie est courte, profitons-en.
Entrez dans mon modeste royaume, je vais vous faire découvrir l'arc-en-ciel aux mille couleurs.
Émilie a eu raison. La seule façon de se dépêtrer d'un type pareil, c'est de viser la tête. Mais je n'ai rien pour le frapper et il m'attire à l'intérieur. Mais se mêle Queen sur son parquet comme des pneus qui redoutent le précipice dans un virage de haute montagne. En désespoir de cause, je lui donne une bonne tape sur son bandage. L'effet est immédiat. Il me lâche et se met à hurler de douleur. Un peu comme le type du train fantôme. Que dois-je faire? Prise entre lui qui braille et Émilie qui couine.
Désolé, monsieur. Heureuse de vous voir sur pied.
Et si vous me permettez un conseil, ne tentez jamais de séduire une femme sans avoir pris une douche. J'attrape Émilie par le bras pour l'entraîner hors de l'immeuble.
Je pense qu'elle va arrêter le club de théâtre et que je vais être obligée de m'occuper moi-même de ses rencontres.